Ouais, salut à toute l'équipe. Je suis outré, et je voulais dire à propos de l'évacuation de la Sorbonne. Le président de la Sorbonne, Monsieur Robert Pitt, hein, c'est la honte de la France, un mec comme ça, ok? Et on va lui offrir la carte de l'UMP et un poster de Sarko. Mais à mon avis, il doit déjà l'avoir. Bravo, monsieur, c'est lamentable. Voilà ce qu'on offre à la jeunesse, des matraques et de la lacrymo dans la gueule, alors que ces jeunes font preuve d'intelligence et de courage. Voilà ce qu'on leur met dans la gueule, alors que on se plaint que les jeunes s'occupent pas de politique et s'intéressent pas à la politique. Bah, quand ils s'intéressent un peu trop, on leur fout des matraques dans la gueule. Bravo, c'est bien, c'est bien. Et Robert Pitt, bravo, hein, bravo, bravo. Lamentable. Bruno de Paris, super vénère, grave. Salut les mecs. Et tenez bon, hein. Ciao.
C'est Gwenaël de Montlouis. Je t'appelle pour te dire que ce matin, j'ai entendu une nouvelle intéressante sur France Inter au journal. Notre cher Nicolas a mangé une pizza et des gâteaux. Bon, nous avons des nouvelles de Nicolas. J'espère que nous aurons bientôt sur France Inter des nouvelles de Pimprenelle.
Je viens d'écouter Gilles de Robien sur France Inter tout à l'heure. Quelle prétention et surtout quel mépris des jeunes. Comme si les jeunes avaient besoin d'être manipulés pour savoir ce qu'ils veulent ou plutôt ce qu'ils ne veulent pas. Nous qui sommes trop âgés maintenant et qui nous sommes tellement plus dans les manifestations, nous sommes fiers de tous ces jeunes qui luttent et qui nous font chaud au cœur. C'était Jeanne de Rouen. Merci.
Alors, on ne sait pas si c'est 400 000 ou 1 million de personnes qui ont manifesté le 7 mars. On ne sait pas si c'est 10 facultés ou 80 qui sont en grève. On ne sait pas si la grippe du poulet est dangereuse ou pas. On ne sait pas grand-chose. Par contre, on sait qu'il y a 300 personnes qui ont manifesté à Toulouse contre les ours. Et puis, on sait toutes les imbécilités de Monsieur de Robien. Voilà. Merci les journalistes. Merci.
Oui, je trouve incroyable d'entendre Monsieur de Robien là à midi sur France Inter, qui trouve scandaleux que les étudiants puissent vouloir entrer de force dans la Sorbonne et qui justifie ainsi l'envoi des CRS. C'est pas du tout scandaleux, par exemple, que eux, ils veulent faire entrer de force le CPE contre le Code du travail, qui est aussi un symbole de la République. C'est pas du tout scandaleux pour eux de profiter d'un pouvoir politique donné par le peuple pour l'utiliser contre lui. C'est pas scandaleux de détricoter systématiquement les services publics, qui sont quand même de grands symboles de la République. C'est pas scandaleux d'exonérer à tire-larigot le patronat, de tolérer une évasion fiscale gigantesque, etc. Ce gouvernement met bien plus en danger la République que les manifestants. Et les Français, en ce moment, et depuis que le gouvernement est en place, dépensent une énergie formidable pour stopper son sabordage organisé.
Je le savais, moi, que derrière la privatisation des services publics, il y avait quelque chose de pas clair. Comment on dit déjà? Anguille sous riche. De toute façon, avec le libéralisme, il y a toujours anguille sous riche.
C'était juste pour vous informer qu'avant de diffuser votre émission à propos de la casse des navires en Inde et au Pakistan, au Bangladesh et en Chine, il y a des chantiers aussi ailleurs, que j'étais chargé par un groupe industriel français de trouver un site qui pourrait se prêter à ce genre d'activité en France, en répondant aux normes sanitaires et écologiques en vigueur dans notre charmant pays, que j'ai trouvé des sites qui potentiellement répondent aux caractéristiques demandées. Mais que comprenez-vous, cher monsieur, c'est une excellente idée que de vouloir faire ça, mais ce serait beaucoup mieux chez le voisin. Dixit certains ports. Voilà, ça fait un petit message en plus. À plus, bientôt.
En effet, nous partons dans quelques instants, embarquement immédiat pour l'Inde, pour le Bangladesh. L'Inde d'abord, aujourd'hui on va atterrir à Delhi, juste à côté de Delhi, pour commencer. Vous allez voir où, on va aller là où va votre ordinateur quand vous le changez. Vous savez, vous changez d'ordinateur, et puis le vendeur vous dit, oh ben, je peux vous reprendre l'ancien, si vous voulez avoir, vous lui donnez l'ancien. Pareil pour le portable, pareil pour le transistor, enfin, où ça va, tout ça. Eh ben, on a trouvé, avec Guy Ventil, on a trouvé où ça va. Mais c'est pas l'événement principal. Non, 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 non. Mort de Milosevic, affaire du CNE, tout ça n'est pas l'événement principal dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Là, l'événement principal qui vous agite et qui polémique sur le répondeur de la basse, j'y suis, c'est le 7-9 de ce matin. Ça vous a passionné et vous avez passionnément réagi. Alors, on a choisi des messages, les uns pour, les uns contre, et c'est pas triste.
J'appelle suite au 7-9 de ce matin, au cours duquel Paoli se fait interpeller, voire agresser à 3 reprises par des gens qui appelaient pour faire la pub de leur canard, le plan B. Il se trouve que je pense partager un certain nombre d'idées politiques avec ces gens, mais j'achèterai pas leur canard et j'irai même pas voir à quoi ils ressemblent. J'ai trouvé leur façon de faire odieuse. Le type qui était là, journaliste algérien, qui défend les droits de l'homme, la liberté d'expression au quotidien, j'aurais bien aimé l'entendre parler plus. On a plein de choses à apprendre sur ce qui se passe là-bas. Donc, voilà, très déçue, en colère. J'ai trouvé que Paoli réagissait vachement bien. Et puis, voilà, les gens qui s'emparent de la parole en respectant aussi peu celle des autres, j'ai même pas envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Voilà, c'était Marie de Rennes. Salut.
C'est Brigitte, il vient de se passer quelque chose de formidable au 7-9. Nous avons, enfin, des auditeurs qui ont pu parler et parler du fameux plan B, parce qu'il faut quand même dire que quand on pose une question, on ne passe pas. Il faut que ça cadre, donc on est quand même trié. Donc les gens sont obligés d'arriver masqués. La colère de M. Paoli est très, fait du bien. Le service public nous appartient, l'antenne nous appartient, France Inter nous appartient. Ça ne lui appartient pas, il est journaliste. Et nous, si on a envie de dire ce qu'on pense, on le dit. Mais ça ne lui appartient pas. Et il faut qu'il reconnaisse qu'il est bouffé par le pouvoir et qu'il a soutenu le oui. Il faut qu'il admette ses erreurs. Tout le monde est faillible. Bon, il ne sait pas ce que c'est que la réalité des choses. Mais c'était très bien ce matin. On a vraiment... et sa colère fait du bien, parce que si ça pouvait le remettre en question, le 7-9 ne lui appartient pas. Et France Inter ne lui appartient pas. Il nous appartient, France Inter. Nous, les auditeurs.
Stéphane Paoli a très bien répondu ce matin aux vengeurs masqués au pluriel, une perte de temps pour les personnes qui désiraient poser des questions intelligentes. Quand on n'est pas d'accord, on le dit, ce numéro est fait pour ça. Je reste fidèle à France Inter, très éclectique avec ses qualités et ses défauts, mais qui n'en a pas. Merci.
Ce matin, dans le 7-9 de France Inter, plusieurs auditeurs ont téléphoné pour dénoncer le fait que cette édition d'information du matin soit clairement orientée politiquement. Ces auditeurs ont demandé l'ouverture au social du journal de Stéphane Paoli. Ils ont aussi dénoncé les liens étroits entre presse, radio et l'industrie d'armement qui les possède souvent. Je suis d'accord avec eux sur plusieurs points, mais d'abord sur le fait qu'il faut libérer le 7-9 de France Inter de l'emprise du MEDEF. Ensuite, l'embarras dont a fait preuve Stéphane Paoli pour répondre à ses interlocuteurs était à lui seul la preuve, s'il en fallait, que France Inter manque d'indépendance, notamment dans sa tranche matinale. Oui, il y a du travail à faire pour les auditeurs de là-bas, si j'y suis. Libérez le 7-9, libérez le 7-9.
Je viens d'entendre Stéphane Paoli pour pousser son cri de gueule. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais là vraiment oui, ça suffit, parce que France Inter est certainement la dernière radio qui nous reste. Et moi je voudrais pas que ça s'arrête. Alors effectivement, quand on a des opinions, il faut les dire et pas avancer masqué comme il a dit. Alors je le redis, je suis pas toujours d'accord avec Stéphane Paoli, mais là vraiment je le soutiens, parce que vraiment il y en a marre. Ou on a quelque chose à dire et on est capable de le dire ouvertement, ou alors on se tait. Mais si on se tait, vous savez ce qui va nous arriver dans un an. C'était Evelyne Dugard.
Oui, bonjour, c'est Vincent de Montpellier. Bah, écoutez, j'appelle parce que j'ai été choqué ce matin de l'émission du 7-9, et en tout cas de la réaction de Stéphane Paoli face aux questions des auditeurs, qui certes avançaient masqués, mais leur aurait-on donné l'antenne s'ils avaient clairement affiché leurs intentions? Ça, j'en suis moins sûr. Et peut-être que ce serait intéressant que France Inter se pose la question de la couleur et de la teneur de son 7-9, qui... de temps en temps, effectivement, fait un peu suppôt de suppôt gouvernemental et brosse à reluire, voilà. Donc, merci, à bientôt.
Bonjour Daniel et bonjour aux auditeurs. Ce matin, trois héroïques résistants sont sortis de la clandestinité au péril de leur vie pour perturber l'émission de Stéphane Paoli. Ils voulaient dénoncer le blackout dont serait victime le journal Bleu Plan B de la part de France Inter. Deux petites remarques. Daniel Mermet y a consacré une heure la semaine dernière. Autre remarque plus grave, ils ont ainsi empêché de parler le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Rappelons qu'en Algérie, défendre la liberté de la presse, il y a peu, pouvait être puni de mort par les terroristes et actuellement de prison par le gouvernement. Cherchez l'erreur. Je ne sais pas ce que vaut le plan B, mais avec de tels défenseurs, il n'a évidemment pas besoin de détracteurs. Bonsoir, Frédéric de Paris.
Ouais, sauvage, quoi. Le truc d'électronique de précision, tu sais, avec des circuits imprimés qui sont faits par des machines, après des années d'études, par des ingénieurs surdiplômés. Ça finit comme ça dans une petite arrière-cour, un gars avec une espèce de gourdin en train d'arracher tous les circuits intégrés pour pouvoir récupérer la plaque. Derrière, voilà. On entend l'eau qui goûte et on sent encore les vapeurs d'acide qui reviennent. C'est vraiment le bout de la chaîne.
Voilà, et derrière, le bain d'acide, il est là. Ouais. Hein, ça a été creusé dans le paysage.
Ah, même la terre, hein, t'as vu, la terre est teintée autour, c'est devenu noir le sol. Et juste en contrebas, en plus, c'est les champs.
Hop, un coup de tenaille. Bon, on fait un bout de fer à vous deux.
Ouais, ses copains l'ont appelé.
Allez, on lui arrête de bosser.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis, comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise?
Flight number 2, arriving from...
On a fait au moins une heure et demie de voiture dans des embouteillages à travers des lits.
Poussière, embouteillage, bruit, tension.
Et là, derrière cette maison, dans une espèce de terrain vague, on est en train d'entrer dans, appelons ça un village. Et là, juste en entrant, dans une petite courette comme ça, on trouve un tas de circuits imprimés. Ça a l'air de rien, on dirait des dossiers verdâtres avec tout un tas de choses imprimées comme des puces, des transistors, etc. Et c'est quoi ça?
This is board, basically it's used in computers.
C'est un circuit qu'on utilise pour les ordinateurs, les moniteurs.
D'accord, il y a des quantités, hein, c'est une accumulation. Et c'est, qu'est-ce qu'il y a dans les fûts bleus là? Il y a une quantité de fûts.
L'acide sulfurique.
Small things are taken out and they're all separated.
Voilà, toutes les petites pièces sont sorties, sont ramassées, toutes les petites pièces sont isolées, tous les petits transistors. Et puis après, ce qui reste des circuits, des plaques là vertes, et ben là, hop, c'est trempé, c'est mis à tremper dans l'acide sulfurique.
There's some metal bits still remaining in those boats, which is taken out by putting it into the sulfuric acid.
Donc tous les morceaux de métal qui restent, toujours ils essaient de les récupérer.
Yeah, old computers and all becoming obsolete, so they are rejected in the market. So there is a transit kind of point which is in Silampur.
Yeah.
From there, all the old computers and stuff are gathered there, and from there it's sent here for the breakdown.
Tous les anciens ordinateurs qui deviennent obsolètes. Donc il y a un marché et donc ils achètent là-bas pour essayer d'extraire tout ce qu'ils peuvent.
Est-ce qu'on sait par exemple les 5 ouvriers qui sont là, est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils gagnent dans une journée?
Yeah, they were telling that around 60 to 100 rupees per
person. Autour de 60 à 100 rupees par personne par jour.
Un ou deux dollars par jour. Thank you. Clémenceau n'est pas allé en Inde. L'Inde n'a pas voulu de notre amiante. C'est le monde à l'envers. Les pauvres ne veulent plus mourir pour nos déchets, alors que ça les fait vivre, même s'ils en crèvent. En vérité, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Si, en vérité, ils veulent bien mourir pour l'amiante. L'amiante, ils s'en foutent éperdument. Si vous voulez faire rire un ouvrier d'un chantier de démolition, en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, en Chine, n'importe où, prononcez le mot amiante. La plupart du temps, il ignore ce mot et il ignore surtout les dangers que l'amiante représente. Et si vous essayez généreusement de l'édifier en lui disant « Mais vous savez, l'amiante, vous pouvez en mourir dans 10 ans, dans 20 ans, vous pouvez avoir un cancer. » Et alors, vous verrez cet ouvrier vous dire que « Mais... » C'est formidable si ça donne encore 10 ans ou 20 ans à vivre. C'est bien sûr maintenant, tout de suite, qu'il a besoin de travail, immédiatement, car son travail, eh bien, il y a 8-10 personnes qui vivent de son travail. Mais il faut pas croire que l'Inde refuse nos déchets. On a évalué au maximum la quantité d'amiante contenue dans le Clémenceau à 1000 tonnes. Y avait-il ou non 1000 tonnes d'amiante dans le Clémenceau? C'est une petite goutte d'eau, ce Clémenceau et cette amiante. Selon l'organisation Greenpeace India, 1 million de tonnes de déchets toxiques entrent chaque année en Inde venant des pays développés. 1 million de déchets toxiques entrent dans ce pays chaque année. Ça nous a semblé quand même un chiffre assez intéressant. En effet, aujourd'hui, la question des déchets, des recycleurs et des recyclés se pose de façon de plus en plus aiguë. Nous avons choisi, ou il a été choisi pour nous, un modèle de croissance fondé sur le productivisme et la consommation frénétique, ce qui a bien des avantages, mais bien des désavantages. Le plus préoccupant étant la création exponentielle de déchets dont il est difficile de se débarrasser. Alors, on arrive à Delhi, et à Delhi, on va au bout de, vous avez vu, au bout d'une heure et demie de voiture dans des embouteillages monstrueux. C'est peut-être pas les plus monstrueux, parce que vous verrez ce qui nous attend à Dhaka, au Bangladesh. Au bout d'une heure et demie d'embouteillage, on se retrouve dans une banlieue assez agricole. C'est le paysage rural de l'Inde. N'oublions pas que cette Inde, avec son miracle, est à 70% paysanne et agricole aujourd'hui. Sauf que là, on va découvrir les E-West. E-West. E et plus loin, West. W-A-S-T-E. C'est-à-dire déchets électroniques. Et on va voir que ces déchets électroniques, le transistor, l'ordinateur, le portable, tout ce que vous voulez, eh bien tout ça n'est pas perdu pour tout le monde. Ça atterrit dans cet endroit-là. Dans d'autres villes de l'Inde, du Pakistan, des pays pauvres, on récupère et on recycle ces objets électroniques, et on essaye de récupérer les métaux, le cuivre, d'autres métaux précieux qui font partie des éléments composants ces outils qui nous émerveillent, qui nous enchantent et qui sont le fleuron de notre civilisation et de notre consommation actuelle. C'est là où meurent nos ordinateurs. Mais dans quelles conditions? E-West, c'est dans là-bas si j'y suis, c'est la première étape de ce voyage en Inde jusqu'à 18h sur France Inter, là-bas si j'y suis.
Spread power is what? I never had the feeling to either destroy or conquer.
I sing you the day where you left in the wake, or when you pushed us into third place. When the truth is uncovered and the story's been told, you won't be able to look me in the face.
I never had the feeling to either destroy
mother's land just like one big plantation. You did this to the African, you did this to the Asian. Famines were caused not by God but taxation. The fruits of our labor we used to build your nation, sucking us dry, our country's natural juice. Yes, our underdevelopment was caused by your abuse. Yes, our underdevelopment was caused by your abuse.
Ça peut la pas.
Ah, il a cassé la croûte, il va faire la sieste. C'est la pause de
lui, il travaille ici.
Bonjour. Allô. Dans la petite maison là, où les gens sont en train de se reposer là, parce que c'est l'heure du déjeuner, il y a des quantités aussi de morceaux d'ordinateur, de morceaux de postes de télé. Et ils sont en train de casser la croûte, mais c'est un endroit où ils extraient, où ils séparent les pièces. Hein. Il est pieds nus, oh là là, il met ses pieds. Oh là là, vous ne vous blessez pas? Vous marchez pieds nus là-dessus?
Non, ça va, c'est, on a l'habitude.
Mais est-ce que ça rapporte, ce travail?
Pour nous, c'est bon. Par kilo, on gagne une roupie, 50 centimes.
Pour un kilo de quoi?
Bon, le kilo de tout ce matériel.
Mais qu'est-ce que vous sortez de là?
On extrait le cuivre.
Ah, le cuivre? C'est ça le principal, c'est le cuivre.
Oui, seulement le cuivre, et puis après, quand la plaque est toute propre, ça se vend aussi.
La plaque se vend?
Oui.
D'accord. Et vous vivez ici, dans cette maison?
Oui, on dort ici.
Oui,
c'est pas facile la vie, c'est pas évident.
Vous êtes payé combien?
1000 roupies par mois.
1000 roupies par mois, 20 euros par mois, quoi, à peu près. Ça, c'est bien, 20 euros par mois?
Mais on n'y peut rien, il faut qu'on fasse avec. Ils peuvent nous payer mieux seulement si ça rapporte plus, comme ça ne rapporte pas grand-chose.
Vous êtes de quelle région, vous?
Je suis du Bihar.
Vous êtes là avec votre famille ou votre famille est restée là-bas au Bihar?
Ils sont au Bihar.
Ah, et vous rentrez là-bas de temps en temps?
Une fois par an.
Une fois par an.
Namaste.
Il y a un petit tas là-bas, avec des puces, des circuits intégrés. La marque Intel qui est un des leaders mondiaux. Puis derrière, tu regardes.
France.
C'est des circuits intégrés qui viennent de France. Dans cette petite cour, là, à côté des trois vaches qui sont avachies et des bidons d'acide.
Là, on va dans un autre enclos.
La porte.
They are working inside, but I think they are not opening the door.
Ils sont en train de travailler à l'intérieur, mais je pense qu'ils ne veulent pas ouvrir la porte parce qu'ils nous ont vus.
Ah oui, on aperçoit par ce petit trou des femmes qui sont en train de travailler, de laver des plaques avec des grattoirs. Il y a quelqu'un qui vient nous ouvrir. Non, il y a quelqu'un qui vient nous ouvrir, voilà. Alors, on entre dans une cour. Alors là... Bonjour le taudis. Voilà les femmes qui sont en train de le gratter du circuit. Intégrés, ça on tous.
Ça me fait les cassettes.
Ça les fait rire.
T'as vu, on voit la couleur du circuit qui sort,
c'est
complètement brillant.
Mais comment elles font pour pas toucher?
Ah ouais, c'est vraiment des aménations acides là.
Alors elles sont, c'est invraisemblable. Elles sont en train de gratter ces circuits imprimés avec des morceaux de métal comme ça. Elles ont des mains nues, elles sont très souriantes, pieds nus, mains nues, et elles grattent et elles jettent les plaques après les avoir grattées. Elles les trempent dans l'acide et elles en font un tas là, comme ça qui arrive jusqu'à nos pieds.
Il y a quand même
ceux qui travaillent là-bas ont des gants. C'est intenable. Comment elles font pour tenir?
Copper.
This is copper.
Et ça, c'est du cuivre, hein? C'est plaque.
This is what they're trying to extract.
C'est ce qu'ils essaient d'extraire de ces circuits intégrés.
Taking out some board from sulfuric acid.
Ils sont en train de sortir quelques plaques de l'acide sulfurique.
On estime à 10 000, rien que pour la ville de Delhi, le nombre de personnes qui vivent de cette activité, c'est-à-dire la récupération et le recyclage d'appareils électroniques et électriques. Oh. Rien que pour cette région de Delhi. Là, on est dans une région, un endroit qui s'appelle Mandolia. C'est un assez beau paysage, des champs. On est en sortie de la ville. Et on est avec Mohamed Tariq et Priti, qui sont deux militants d'une ONG qui s'appelle Toxic Links. Beaucoup d'ONG en Inde. Hein. Beaucoup d'ONG, beaucoup de militants, beaucoup de gens qui sont impliqués dans la défense d'un data de choses, des droits, de l'environnement, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer, beaucoup de lutteurs sociaux aussi dans ce pays, et qui sont organisés. On peut pas dire qu'on soit vraiment bienvenu dans cet endroit avec nos têtes d'Européens, avec nos têtes de Greenpeace, et avec nos deux amis qui, évidemment, eux, viennent, enfin, militent et essayent de faire comprendre patiemment, d'ailleurs très très patiemment, aux gens les risques qu'ils courent là de travailler à longueur de journée, à respirer des bains au-dessus de bains d'acide nitrique ou chlorhydrique. Évidemment, c'est particulièrement dangereux et mauvais. Et donc voilà, c'est là qu'aboutissent les restes de nos ordinateurs, les circuits imprimés qui sont dans tout un tas d'objets que nous consommons. Mais aujourd'hui, on ne sait plus comment sont faits les objets qu'on utilise. Il y a encore peu de temps, 20, 30 ans, 40 ans, on savait, on se doutait de la façon dont c'était dans cet effet. Mais la révolution électronique fait qu'on ne sait pas. C'est comme ça, un ordinateur, on tape dessus, c'est magique. Il y a des images, il y a des chiffres, des lettres, et puis un beau jour, c'est obsolète, c'est désuet, alors on en achète un autre. De plus, le cycle est de plus en plus court. Pareil pour les portables, etc., etc. Sauf qu'évidemment, il y a une fabrication. Il y a une fabrication, et c'est une fabrication qui engage énormément de matériaux, contrairement à ce que l'on peut croire. Il faut 290 kilos d'énergie fossile, 22 kilos de produits chimiques et 1500 litres d'eau pour produire un ordinateur fixe. Alors que fabriquer un réfrigérateur ou une voiture consomme une fois ou deux fois son poids en énergie fossile, un ordinateur ingurgite 10 à 12 fois son poids en pétrole. Et plus il est petit et léger, plus il faut d'or noir pour le façonner. Une puce de 2 grammes exige 1,6 kg d'énergie fossile pour sa fabrication, soit 600 fois son poids. Les ordinateurs et tous les produits électroniques, électriques, téléphones, télévisions, etc., posent aussi de graves problèmes en fin de course. C'est un énorme sujet. Je suis en train de lire une page d'un journal suisse qui s'appelle Le Courrier, et qui les Suisses sont très inquiets par ces affaires-là, et ils sont peut-être plus producteurs et plus consommateurs encore que nous de ces genres d'objets. Et l'Inde, plus encore que la Chine, est la poubelle high-tech de la planète.
Alors, eh bien, c'est un système aussi dont on pourrait se féliciter, après tout, parce qu'il y a recyclage, il y a récupération. Le cuivre qui va être extrait, récupéré de ces plaques, eh ben, va retourner dans le système. Il y a d'autres métaux, matériaux qui vont être réinjectés dans le système. Donc, on pourrait se réjouir, sauf des conditions dans lesquelles tout cela est fait, c'est-à-dire les conditions, eh ben, tout simplement, de travail. Alors là, c'est un jeune homme qui est en train de trier. Il trie rien du tout. En fait, il est en train d'arracher les transistors et les pièces qui sont fixées sur le circuit imprimé avec une sorte de marteau. Et il vire toutes ces pièces-là.
Tous les morceaux que je sépare, c'est pour en extraire du fer et la plaque de transistor, on jette. Alors que la plaque d'ordinateur, ça, on utilise pour en extraire du cuivre en jetant les plaques dans de l'eau chaude.
Dans de l'eau chaude?
Ça se vend à 2 roupies à 3 roupies le kilo.
Infernal.
Il faut déranger tout le monde. Ouais. Il n'arrive plus à travailler.
Le monsieur n'est pas content du tout. Hein.
Non, il dit, en tout cas, il touche des clopinettes et il les empêche de travailler.
Qui est le patron ici?
C'est lui, le propriétaire. Ah, c'est
bon. Voilà, il vient nous parler, le patron.
Pourquoi vous voulez de microphone?
Alors, vous êtes le propriétaire de cette entreprise. Alors, combien vous avez de personnes qui travaillent ici?
4 ou 5 personnes.
4 ou 5 personnes. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une odeur qui brûle le nez, là. C'est de l'acide.
Non, on n'a pas toute cette connaissance. C'est des produits chimiques pour nettoyer. Pour nettoyer.
Mais c'est très dangereux, ça, hein, pour les mains, pour les yeux, pour les poumons.
Mais nous, on travaille ici, on ne sait pas dangereux.
Mais si c'est dangereux, on le sait.
Tout le monde travaille, mais il y a des manières de travailler aussi, c'est pas dangereux. Si la personne observe les bonnes manières de travailler, ce sera pas dangereux.
Comment? Alors c'est à ciel ouvert, c'est quel acide? C'est l'acide
sulfurique.
C'est sulfurique acide, etc. À ciel ouvert, quels sont les effets de l'acide sulfurique?
Some respiratory problems.
Des problèmes respiratoires.
There may be some skin disease also.
Peut-être des maladies de la peau aussi si on utilise l'acide sulfurique.
Because they're not taking enough protections while handling it.
Parce qu'ils ne se protègent pas.
Sometimes they use gloves.
Quelquefois, ils utilisent des gants. Les gants sont là.
Ça brûle le nez. Hein.
Yeah, definitely.
Running the nose.
Pour essayer de décrire, c'est une petite courette. Et dans cette cour là, est encombrée de bidons, de plaques avec des circuits imprimés, des transistors qui sont arrachés à coups de marteau. Et ensuite, on gratte la pellicule qui est sur les circuits imprimés, pellicule noire là, et de façon à dégager un peu le cuivre, le circuit imprimé en cuivre qui est en dessous. Et voilà, là on fait un tas, la dame fait un tas, et ensuite ça c'est balancé dans cette cuve d'acide sulfurique où ça blouboute, ça bloque doucement, et de là ben on sortira du cuivre, et les plaques qui sont derrière moi là à gauche, ben, il n'y a plus rien dessus, le cuivre est parti, et je suppose qu'on les recycle encore et qu'on les récupère encore.
Ah papa, c'est un peu calme, ce qui est plus. अच्छा नहीं होता तेजाब किसी के लिए भी नहीं अच्छा je dis c'est pas bon l'acide et tout prenez soin de vous il dit mais il faut qu'on mange aussi
ouais on comprend
हमें समझ में आ रहा है il faut travailler sinon qui va nous donner de l'argent pour manger
on voit la dame en sari qui attrape dans l'acide les autres paquets de plaques et qui les jette à sa copine qui continue à les gratter voilà une nouvelle plaque
même après avoir travaillé si dur on gagne pas grand chose
combien vous gagnez par jour madame
50 roupies.
1 euro.
Si on peut remplir la moitié d'estomac, on le fait. Si on ne peut pas, on ne mange pas.
Ok, good luck.
Ok, thank you.
Thank you, good luck.
Dhanyavaad.
Ça tout au long de la journée.
C'est vraiment la campagne ici, quoi. C'est vraiment les plus ruraux, les plus pauvres qui font ce boulot-là.
Mm.
Et dans le genre terre de contraste, d'un côté, tu as ces vaches et ces buffles qui sont paisiblement en train de chier. Les dames ramassent soigneusement et paisiblement les bouses, enfoncent ces tourelles et ces tours. On va appeler ça l'espèce de gros pain de sucre de bouse de vache qui serviront à chauffer la maison. Donc voilà un cycle des récupérations.
De recyclage.
Et la même dame ou sa sœur ou sa mère récupère les circuits électroniques.
Hein, qui sont nos bouses à nous de société industrielle.
Oui.
C'est les bouses de la Silicon Valley en fait.
C'est quand même fou le contraste.
Elle ne voit pas du tout pourquoi. Qu'est-ce qui nous étonne là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'interdit et tout. La seule différence, c'est l'acide sulfurique. Mais sinon,
et que les autres les bouses électroniques viennent de beaucoup plus loin.
Voilà. Ouais.
Alors voilà, les bouses électroniques, effectivement, est à côté de Delhi, enfin dans la banlieue de New Delhi. Et c'est un marché en développement, le business du recyclage informatique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, 250 millions de PC seront mis au rebut dans les 5 ans à venir, 1 milliard dans le reste du monde, et près de 400 millions de téléphones portables qui ont une durée de vie sans cesse plus réduite, qui devrait rendre l'âme dans les 2 ans. Il faut ajouter à ça, bien sûr, les agendas électroniques, les ordinateurs portables, les modems Internet. Déjà en France, on jette chaque année 900 000 magnétoscopes, 1,3 million de téléviseurs, 1,8 million de lave-linges. Chaque habitant produit plus de 16 kilos de ses déchets par an, et c'est une quantité qui devrait doubler d'ici à 2010, et cette tendance ne peut que s'accentuer. La durée de vie moyenne d'un PC étant passée en une décennies, de 5 à 2 ans, innovation technologique et baisse continue des prix aidant. Alors tout ça, ben voilà les conséquences de toute cette hyper production, cette hyper consommation. Ça tombe là, dans, par exemple, dans cette banlieue de New Delhi, avec, c'est pas seulement des irritations des voies respiratoires. Il n'y a pas que l'acide, il n'y a pas d'ailleurs que du cuivre dans ces déchets électroniques, dans ces e-waste. Il y a aussi du plomb, il y a du mercure, il y a du cadmium, il y a des dioxines, des acides et d'autres substances toxiques qui sont libérées lors de ces manipulations qui attaquent évidemment la peau. Je rappelle que les femmes qu'on voit travailler là travaillent à main nue, affectent les voies respiratoires, les muscles, les reins, le système nerveux, déclenchent des cancers, perturbent les grossesses et finissent par altérer le patrimoine, le substrat génétique des populations. Tout ça n'est pas rien. Et pour les... On est dans un village. Il y a une partie du village où ce sont des paysans qui sont là de toute éternité, qui font des gestes de toute éternité, qui récupèrent les bouses des vaches de toute éternité, qui font des galettes et des meules avec ces bouses qui serviront à chauffer, à faire comme combustible. Et puis, voilà. Et à côté, c'est presque les mêmes gestes, sauf que c'est très dangereux, c'est mortel. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut être contre ce système de recyclage, mais qu'il faut faire dans d'autres conditions, c'est-à-dire à d'autres tarifs. Et ça, c'est toute une histoire dont s'occupent ces nos deux amis militants de cette ONG Toxilinks. Ah, voilà, toi, c'est des vraies meules de bouse. Des vraies meules de bouse de vache séchée qui servent ensuite à chauffer le four, à faire à manger. Il y en a partout dans la campagne, là on arrive, on débouche sur les champs. Il y a une espèce de ruisseau, un cloaque infâme. Ah ouais! Et là, le long de ce mur de briques, on trouve un tas de circuits imprimés. Tu vois, les gosses, ils savent très très bien trier tout ça, tu vois, les gamins.
Ils font le tri, c'est tout ici. Après, ils vendent aux autres.
Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, au juste, alors?
Je fais le tri de toutes les plaques.
Et d'où elles viennent, les plaques?
De Delhi aussi et de l'extérieur aussi. À Silampur. C'est un quartier.
D'accord. Alors, vous achetez ça dans Delhi, vous amenez ça ici.
Oui.
Et là, vous faites le tri.
C'est tout.
D'accord.
Je fais le tri et puis je vends à une fabrique qui fait le traitement.
Et là, les enfants vous donnent un coup de main?
Non. Non.
Bah, sauf qu'ils sont en train de le faire, le travail, là, on les voit sous nos yeux.
Ils jouent avec.
Ah, on appelle ça jouer avec. Est-ce que c'est dangereux de faire ça?
Si ça avait été dangereux, pourquoi les gens le feraient?
Ben pour vivre.
Il n'y a aucun problème là-dedans.
Et combien vous gagnez par jour, par exemple? Combien vous gagnez pour faire ça?
Ah oui, 50-60 roupies par jour.
Ça fait un peu plus d'un euro.
1 euro.
Ça, on sait que ces produits sont très dangereux pour la respiration, pour les yeux, pour les poumons et pour l'environnement aussi. On sait que c'est très dangereux.
Aucun effet. Peut-être, effectivement, il y a un danger, mais nous, on ne le sent pas.
Oui, c'est ça. Vous travaillez dans la fabrique, là-bas?
Jeans. Avec les jeans, la fabrique.
Ah.
Même dans les jeans, ils utilisent de l'acide.
Voilà. Des acides aussi, pour les blanchir. Mais tu vois, je pense que tu vois les jeans qui sont là-bas, c'est ceux que tu vois dans les boutiques les plus chics à Paris, qui sont déchirés, qui sont blanchis, qui sont usés, qui sont décolorés.
Et là, ils sont sur un méchant fil entre trois bouts de bois.
Ils ne touchent même pas 20 roupies, 30 roupies le jour.
C'est-à-dire un demi-euro par jour pour décolorer les jeans. Et pour décolorer avec de l'acide récupéré dans des batteries. Des batteries automobiles, on récupère les batteries, on récupère tout se récupère. Il y a toute une chaîne comme ça de récupération. Tout ça, c'est très organisé. Ça a l'air comme ça, mais quand on s'approche un peu de plus près, on voit que c'est très très organisé et que c'est très 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 dangereux et dommageable, non seulement pour la santé, mais aussi pour ceux qui travaillent, y compris les enfants. Dans la récupération des circuits, est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent aussi?
Oui.
Dans le quartier de Sahibabad, il y a d'autres fabriques aussi.
Et finalement, il y a beaucoup d'enfants qui sont obligés de travailler.
Ça dépend.
Oui, ils sont plus ou moins obligés de travailler. Il y en a qui conduisent les rickshaws, il y en a d'autres qui travaillent dans des fabriques.
Dans les blue jeans, là, dans les jeans, pour décolorer les jeans, il y a des enfants qui travaillent aussi?
Oui, ici même.
Ils ont quel âge?
14, 15 ans.
Et il a changé de temps parce que les autres lui font très peur, lui jettent des regards désapprobateurs. Il a compris qu'il fallait qu'il la ferme sur l'histoire du travail des enfants, c'est comme pour l'acide. Hein? Alors là, c'est dans une cour que ça se passe.
Ça, c'est pire encore, ça, c'est des batteries qui ont été désossées.
C'est de la récupération dans la récupération. Voilà le patron qui est en train de prendre son déjeuner.
Son chapati et dal. Nous, on achète les batteries qui sont condamnées, dont on ne veut plus, et on enlève l'enveloppe et le reste, on fait fondre. Et puis on vend les métaux qu'on récupère.
Ah, l'acide, la dame nous montre, elle tient une petite batterie à la main. Oui. Et l'acide qui est contenu dans les batteries, vous le mettez où vous?
On jette dans les ruisseaux. Parce que c'est pas du bon acide. Hein, parce que c'est des batteries périmées.
Vous jetez dans les ruisseaux. Vous en jetez beaucoup?
Il y en a plus beaucoup. C'est presque sec.
Mais ça pollue les ruisseaux, alors ça pollue les rivières.
Non.
Ah bon, ça a changé.
Non, c'est tout à fait vide. Il va montrer ce que ça trouve à l'intérieur. C'est ce qu'on trouve là-dedans.
Ça, c'est quoi comme métal?
C'est du plomb.
D'accord, donc récupère... Oui, c'est des batteries au plomb. Et il récupère le plomb qui est dans les batteries et auparavant, il les vide dans les rivières. Alors, comme on leur a demandé si l'acide des batteries servait à décaper les circuits imprimés, ils nous disent non, on les jette dans les rivières. Après, quand on dit, mais vous les jetez dans les rivières? Non, finalement, elles sont vides. Ils se défendent. Non, mais ils se défendent parce que c'est leur casse-croûte. Là, on est dans une cour avec ce monsieur qui finit son déjeuner. Et c'est pas la fortune, hein, c'est pas des gens riches. Donc il défend simplement son casse-croûte, c'est pas un salaud d'industriel. Simplement, les problèmes d'environnement, c'est secondaire quand il faut bouffer, quoi. Voilà, tout simplement.
Mais n'empêche, l'industriel, lui, il se fait des bonnes marges en revendant ses batteries usagées à cet individu.
Ah oui, bien sûr, ouais. Alors un détour par ce quartier de Silampur, dont on nous a parlé, c'est de là que viennent les pièces, les vieux ordinateurs, vieilles télés, tout ce matériel-là vient de ce quartier de Silampur. C'est une ruelle, mais quand on arrive, alors là on est vraiment très 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 mal accueilli, les boutiques ferment, on veut rien nous dire, on veut rien nous montrer, mais bien sûr, on s'entête.
Bon, on se fait refouler de la rue.
Ouais, mais c'est bazar. Drôle parce que c'est à celui qui sera le plus menteur. Mais on comprend rien parce qu'on comprend pas pourquoi ils ont si peur de nous. C'est une rue où, et de toute évidence, là, on entend les lecteurs de CD, morceaux d'ordinateur, ouais. Morceaux de.
C'est
de tout
très,
ce qu'on
très
voudra.
Ordinateur.
Voilà,
on nous maintient. Non, non, ce ne sont pas des ordinateurs. C'est pas dans ce quartier qu'il faut venir, c'est pas du tout ici que ça se passe.
On comprend Madame pas qui... pourquoi les gars ont peur. Ils ont fermé toutes les boutiques de la rue quand on est arrivé. Il y a pas mal de boutiques qui ont fermé. Et c'est jamais que des gens qui reçoivent des ordinateurs, qui les désossent.
Et qui envoient les pièces encore, qui ont encore moins de valeur chez nos amis qui sont dans le champ, dans la campagne, dans l'acide sulfurique. Ici, c'est l'étage d'avant.
Hein? Non, il dit, mais un ordinateur, d'après moi, c'est avec un écran et un clavier.
Il dit ça? Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est?
Je pensais qu'on connaît, on connaît pas les lecteurs.
C'est quoi ça, d'après toi?
C'est des lecteurs de CD, des lecteurs et graveurs de CD, pour ordinateur. Voilà. Et alors, si on continue d'avancer dans la rue bouillonnante de personnes, là, on voit les claviers. Des dizaines de claviers qui sont entassés les uns sur les autres,
ouais.
Avec les touches pleines de poussière, à moitié défaites. Mais ça n'a toujours rien à voir avec les ordinateurs.
Il m'a expliqué pourquoi ils ont peur. C'est parce qu'une chaîne de télé indienne a fait un reportage. Ils ont interviewé. Les autorités ont scellé le magasin.
Parce que?
Parce qu'il a tout révélé, il a tout dit. Et c'était pour une chaîne de télé indienne.
Pourquoi sa boutique a été fermée à celui-là?
Pour une question de pollution, donc il dit pourquoi donner des interviews et puis après voir sa boutique fermée parce que finalement.
Mais c'était quelle pollution on lui a reproché?
Acide, produits chimiques.
En tout cas, derrière, là, on voit, c'est des imprimantes, des ordinateurs, des claviers, des unités centrales, des scanners qui sont entassés. Là, on voit un vieux modèle, c'est un Macintosh S30, année, je dirais, 1992-93.
Merci à tous. Reportage, montage, Guy Vanktil, traduction Padma, Natarajan, merci à Gopal Krishna, Mohamed Tariq et Priti de Toxics Link. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Basse, j'y suis. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Armel M. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, montée par Guy Vanktil et Coy Nguyen, assistée de Pascal Le, Pascal Yello et Christophe Imbert pour le répondeur dans le numéro et le 01 56 40 37 37. Est-ce qu'on a du temps pour la réclame? Oui.